La bulle mécanique sur Radio Primitive, votre rendez-vous culturel 100% rémois.
Bloup, 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 bloup. Vous êtes dans bulle mécanique. Bloup, 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 bloup.
Bloup, 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 bloup. Et bah, belle intro.
Blap, blap.
Bloup.
Salut.
Vous l'aurez compris, on est sur la bulle mécanique pour un focus artiste.
Émission très sérieuse.
Émission très sérieuse, comme d'habitude. Et pour m'accompagner dans cette émission, on est en compagnie de Couscous. Comment tu vas ?
Ça va très bien. Non, blop blop.
Blop blop. Blop blop. Et toi, Claire, blop blop ?
Blop blop blop.
Ok. Et on reçoit aujourd'hui Gustine.
Voilà.
Bonjour Gustine. Salut.
Bonjour Gustine.
Bienvenue.
Ça
Gustine.
Va
ça va et vous?
Eh ben, ça va très bien.
Malgré que t'aies la bonnette de Claire, moi ça me perturbe.
Ah ouais, on a du trafic de bonnettes ici.
Alors petit tuto pour nos auditeurs qui ne savent pas ce qu'est une bonnette, ils iront regarder sur internet. Allez.
Bravo, merci.
Ouais, bah ouais.
Non, du coup, comme je disais, on est en compagnie de Gustine. Gustine, est-ce que tu veux bien te présenter pour nos auditeurs?
Bonjour, chers auditeurs, bonjour, chères auditrices. Donc, je m'appelle Gustine et je suis musicienne et je vis sur Reims.
D'autres indices? Parce que je ne suis pas sûr qu'il t'ait encore reconnu.
Donc, je suis Gustine, je suis musicienne, je suis chanteuse et notamment harpiste, ce qui en général permet aux gens de m'identifier.
Ouais, on n'a toujours pas d'appel au standard, là. Qui va gagner la valise?
Il n'y a pas de standard. Et pour ceux qui ne savaient pas encore, tu es finaliste de The Voice en 2020.
Ah ouais, enfin, ouais, co-finaliste, j'ai fini deuxième en finale, hein. Je ne suis pas la finaliste.
Vous étiez trois?
On était trois en finale. Okay. Non, on était quatre et j'ai fini deuxième. Voilà. Je suis première dauphine.
Ah, ouais, c'est ça la classe.
Très belle place.
Non, mais je vais quand même revenir sur la finale de The Voice. Oui. Donc c'est à quatre la finale, non?
La finale, on était quatre finalistes, ouais, effectivement.
D'accord, ouais. Ok. Ok, parce que j'ai jamais forcément regardé. Je sais qu'il y a des sièges qui se tournent.
Exactement,
c'est déjà la base.
C'est le principe.
Voilà.
Non, du coup, Gustine, comment t'as commencé la musique? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique déjà?
Putain, j'ai une super phrase. Avant de faire la musique m'a faite.
Wow.
Exactement. Non, mais en fait, papa, il faut savoir que papa a chopé maman parce qu'il faisait de la guitare. Clairement, elle a craqué, voilà, parce qu'il chantait au bord du feu de Caen, tu vois, avec
sur la
guitare en mode hippie.
J'ai entendu ce genre d'histoire, mais je croyais que c'était un mythe.
Ah ben non, voilà.
Ça existe.
Voilà, donc je suis née grâce à ça.
Grâce à la musique,
en tout cas, en grande partie.
Et
ensuite, j'ai eu un cursus. On faisait de la musique à la maison. Mes parents ne sont pas musiciens professionnels, mais aiment la musique. Mon père donc joue de la guitare. Ma maman a fait un petit peu de piano. Et on avait un piano à la maison. Mes parents m'ont fait prendre des cours dans un premier temps dans une petite école de musique de village où on habitait. Dès qu'on est arrivé sur Reims, ils m'ont inscrit au conservatoire où j'ai fait toute une scolarité, tout un apprentissage.
Et c'est là où tu t'es mis à la harpe?
Ouais, j'ai commencé par le piano en fait, et j'ai ensuite enchaîné sur la harpe.
Bah, c'est un petit peu la même famille d'instruments.
Et oui, pourquoi la harpe? Qu'est-ce qui t'inspire dans la harpe?
La harpe, je sais pas, je trouvais ça beau. Et puis on avait plein d'albums de musique de toutes sortes. À l'époque, on avait des CD à la maison. Et il y en avait notamment un, c'était un espèce de medley, ça s'appelait le cadeau de la vie. Ce petit best-of avec plein d'extraits de musique classique diverses et variées. Et il y avait dedans un extrait de la Symphonie Fantastique de Berlioz. Et c'est un morceau qui s'appelle le bal. Et t'as toute une introduction complètement folle qui fait monter la tension. Et c'est la harpe, en fait, qui, avec des harpes, fait monter le suspense, et piou, après ça part et ça danse, et j'étais fascinée par ce morceau et par l'intervention de la harpe, et voilà, je trouvais que c'était un très très bel instrument, que ça sonnait bien. Et puis quand j'allais prendre mes cours au conservatoire en piano, je m'arrêtais près des salles de harpe, je collais mon oreille sur la porte et j'écoutais, et je me disais putain, c'est trop cool, beaucoup trop beau ce truc. Et donc voilà, j'ai fini par m'y inscrire.
Le chant, du coup, c'est venu après?
Le chant, c'est venu après. Ah ouais, moi j'étais pas. Oh, chantais pas très bien. Hein. Chantais.
Alors,
un peu
moi,
faux.
Moi je voulais rester sur la harpe.
Ah bah vas-y.
Parce que j'avais un petit bonjour à te passer.
Ah, c'est la petite Mariette.
Voilà.
Ouais, oui, on s'est
j'ai pas eu besoin de parler de sa coiffure.
Ouais, une
et
de mes anciennes colocataires qui était harpiste et que j'ai rencontrée à l'époque au conservatoire.
Après, elle s'est mise aux claquettes.
Oui, c'est vrai.
Des claquettes en chant d'arpe et tout.
Gros bisous, Mariette.
Ouais, bisous, Mariette.
Non, du coup, si on en revient à l'émission, ouais. Je voulais te demander à quel moment tu as commencé à te professionnaliser et tu t'es dit, bon, bah tiens, là j'y vais, je fonce et puis.
Il se trouve que quand j'étais au lycée, j'envisageais de faire une formation pour devenir ingénieur du son. Parce que dans ingénieur du son, il y avait ingénieur et ça plaisait beaucoup à mes parents, ça les rassurait beaucoup par rapport à musicien. Et en fait, j'ai été refoulée de tous les BTS audiovisuels dans lesquels j'ai postulé parce que les maths et la physique, j'étais en classe scientifique, c'était pas du tout mon truc, j'avais vraiment des mauvais résultats, donc j'ai été refoulée de partout. Et du coup, je me suis inscrite à la fac. Mais j'y suis pas trop allée, ça m'intéressait pas vraiment. Et à côté de ça, j'ai continué à terminer, en fait, à passer mes prix au conservatoire et à obtenir ce qu'on appelle des DEM. Enfin bref, c'est des diplômes, un peu le diplôme final du conservatoire. Et suite à ça, j'ai postulé pour aller au CFEDEM, qui est l'endroit où on forme les futurs professeurs de conservatoire. Donc j'ai fait une formation pendant... J'ai fait deux formations, en fait, en une. Et donc j'ai obtenu mes diplômes d'enseignement en formation musicale, ce qui anciennement on appelait le solfège, et en musiques actuelles. Donc une fois que j'ai eu ces deux diplômes en poche, en fait, j'aurais pu prendre un poste dans un conservatoire pour enseigner à plein temps. Mais j'ai été intermittente aussi la même année parce que je commençais déjà à faire pas mal de petits concerts à droite à gauche.
Avec un groupe, non ?
Ouais, j'avais un groupe de copains, j'avais aussi un petit duo de jazz, enfin voilà, les trucs avec les copains étudiants aussi au conservatoire, on faisait des petits plans à droite à gauche, et puis après j'ai monté mon premier projet dans lequel je composais qui s'appelait Mila Marina, et donc avec des musiciens, pareil, on faisait des concerts, enfin voilà, j'ai fait plein de trucs, et donc en gros, je vis de la musique depuis une bonne douzaine d'années.
Ouais, c'est déjà
j'ai une question à poser, comment est-ce que tu fais pour organiser ton temps, pour tout faire ?
Alors, il faut savoir que c'est pas du tout une qualité à la base chez moi. J'ai beaucoup de difficultés à gérer ma concentration, à prioriser les choses, à rester organisée. Et donc, comme j'avais des problèmes avec ça, j'ai mis en place beaucoup, 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 beaucoup de choses pour y pallier.
Qu'est-ce que t'as fait ? C'est quoi tes petits secrets ?
Ah, mais il y en a plein.
Lâcher prise.
Le lâcher prise. Non, pas du tout, au contraire.
Merde.
Non, des trucs tout bêtes, faire des plannings. Je fais énormément de planning, de rétro-planning. J'essaye de les faire en restant le plus raisonnable possible, en essayant d'estimer le temps au mieux et en prévoyant les choses larges. Et quand je te dis je fais des plannings, je fais toujours des plannings, par exemple, la veille pour le lendemain. Donc déjà, il y a le planning global, ce que je dois faire en gros dans la semaine, dans le mois, dans l'année. Ouais. Mais il y a aussi ce que je dois faire à la journée, parce que si j'ai pas ça, timé heure par heure,
voilà,
je suis complètement perdue.
Et tu remodules à chaque fois, j'angoisse. J'imagine. Tu te dis, ça, j'aurais pas le temps. Donc,
oui, il y a des choses que je peux... Tard, évidemment, il faut garder une certaine souplesse. Mais voilà, systématiquement, le soir, quand je me couche, j'organise ma journée du lendemain de manière très détaillée. Je fais également beaucoup de listes, de to-do listes. J'ai des post-it dans chaque pièce de la maison, avec des stylos dans chaque pièce de la maison. Comme ça, dès qu'une idée me vient ou quelque chose que j'ai oublié de faire ou comme machin, bam, je le mets. Bon, j'ai aussi la chance d'avoir des proches qui m'aident, notamment mes parents qui m'aident dans plein de choses de la vie et ça allège aussi.
Mes parents, c'était attachés de presse.
Mon père, véritablement, il m'a aidé à créer une société et donc il m'aide à gérer toute la partie administrative parce qu'il y a beaucoup d'heures. En fait, un musicien passe beaucoup d'heures derrière son ordi à envoyer des mails, à traiter des factures, des devis, des machins.
Hein.
Donc j'ai la chance d'avoir effectivement quelqu'un de ma famille, mon père, qui
est super papa.
Ouais. Et qui est très doué pour ça, parce que moi, clairement, je ne le suis pas.
Donc, c'est une facette
de base.
C'est pas donné à tout le monde.
Ouais. Voilà.
C'est rassurant.
Et après, par exemple, dans l'organisation, il y a un truc qui m'angoissait énormément en tant que musicienne, c'était toute la partie préparer le matériel. Avant un concert, après un concert, etc. Il faut toujours penser à un nombre de choses incalculables. Et comme je ne fais jamais exactement la même chose, c'est pas comme si j'avais un seul et même spectacle à l'année et que c'était toujours le même. Au contraire, les formules, elles changent tout le temps, les durées, le matériel, tout ça va changer. Du coup, je me suis fait une liste de listes. Donc, c'est affiché sur mon mur. c'est la liste maximum des choses que je peux avoir à prendre pour une prestation, tout. Et donc, quand je prépare ma liste pour un concert, je regarde cette liste de listes et je vérifie que j'ai bien pensé à tout.
Oui, parce qu'en plus, avec le nombre de projets que t'as actuellement et à venir, j'imagine que t'as pas forcément le choix toute seule dans ton organisation. Il faut que tu t'adaptes aussi aux autres.
Oui, faut s'adapter aux autres. Et tout ça, c'est du temps qu'il faut mettre dans un planning. Souvent, quand on est musicien, on va mettre les concerts dans un planning, on va mettre les répétitions, mais on va pas mettre quand est-ce que je fais mon administration, quand est-ce que je prépare ma valise, quand est-ce que tout ça, c'est pas forcément timé et on se retrouve vite débordé.
C'est pour ça que je te pose la question parce que.
Puis la liste est folle quand même, parce que j'ai vu, t'es quand même harpiste, chanteuse, pianiste, compositrice, productrice de musique électronique. Tu participes à plein aussi, de projets avec des gens.
C'est une femme
aussi,
du futur.
Hein. Ouais. Comment tu peux faire tout ça, quoi, en fait, c'est dingue.
Bah moi, je fais de la musique depuis mes 6 ans. Je bosse la musique tous les jours. Après, j'ai des amis, par exemple, qui ont continué dans le classique, qui vont, par exemple, qui sont violonistes dans des orchestres, qui vont bosser leur violon 8 heures par jour. Moi, j'ai jamais pu bosser mon piano ou ma harpe 8 heures par jour. Je m'emmerde.
Voilà, je peux pas. Couper, limite, ça te fait chier.
Je peux travailler toute la journée, mais j'ai besoin qu'il y ait du changement, qu'il y ait des disciplines un peu différentes. Puis, je suis curieuse de tout. Il y a plein de choses qui m'intéressent.
D'ailleurs, c'est marqué sur ta liste.
Donc, je ne suis excellente en rien, mais je touche à beaucoup de choses et c'est ce qui fait aussi peut-être la spécificité de mon profil et qui fait que j'arrive à trouver du boulot parce que je fais jamais exactement la même chose, mais je ne pourrais pas me cantonner à une seule
émotion. C'est pas épanouissant en fait.
Non, complètement.
C'est comme pas faire à chaque fois, si c'est par exemple du côté de l'harpe, c'est ce que tu disais tout à l'heure, pas faire à chaque fois exactement le truc, enfin à la minute près.
C'est trop
stressant et puis.
Chacun son truc, hein. Mais moi j'étais pas faite pour rester sur un même instrument pendant 8 heures par jour. J'ai besoin de vivre des nouvelles expériences, de rencontrer des gens, d'essayer de nouvelles choses, parce que ça me stimule. Et voilà, chacun, il y a pas de parcours type en fait. Je pense que chaque personne qui souhaite faire de la musique son métier doit chercher peut-être le modèle qui lui convient le mieux, et c'est quelque chose qui soit vraiment personnel. S'écouter lui, exactement, faut s'écouter soi, ouais.
Ce qu'on fait pas assez.
Et bah du coup, en parlant de s'écouter soi, est-ce que tu voudrais pas
t'écouter
toi, ouais, pourquoi pas.
Moi, je déteste m'écouter en plus. L'esprit critique qui dit « Hey, coucou, et pourquoi t'as pas mis ce machin-là plus fort et ce truc-là moins fort ?» On écoute un morceau à moi que je t'ai filé.
Et bah ouais, du coup, t'es venu avec deux morceaux, donc je sais pas lequel tu voudrais passer en premier.
Je sais pas, en tout cas c'est des morceaux que j'ai encore jamais trop fait écouter parce qu'ils ont été enregistrés en studio avec mes amis musiciens Romain Darbon, Nicolas Masson et mon ingénieur du son de toujours Jérémy Hartmann du studio Le Chalet, avec également une touche de quelqu'un qui est dans ma vie de musicienne depuis presque toujours aussi, qui s'appelle Kevin Espiche, et donc qui a mis aussi des claviers. Je te propose qu'on écoute... écoute, on va écouter Sweet Beauty.
Ok. Allez. C'est parti. On s'écoute ça sur la bulle mécanique. Mmh. Et c'est Gustine.
See my
Eh bien, du coup, on vient de s'écouter Gustine, c'était
Sweet Beauty.
Et tu disais, ce titre, il va peut-être pas sortir.
Mais, j'en sais rien, non, mais on l'a enregistré en studio avec les copains. Je sais pas trop où je vais en termes d'album, sortie d'album. Je pense que j'ai encore envie de chercher, de collaborer avec des gens, sans doute trouver un label qui m'accompagne là-dedans. Mm-hmm. En tout cas, voilà, ça, on a fait ça entre amis. Et non, c'est pas sorti. C'est un morceau que je joue quand même déjà un petit peu en concert, mais l'enregistrement n'a encore jamais été diffusé. C'est une exclusivité.
Oui,
exactement.
Non, mais en plus, j'ai vu que t'avais créé ton propre label pour le premier album.
Oui, c'est ça. Ouais, complètement. Bah, si tu veux, pendant le confinement, bah, j'ai fait comme beaucoup d'artistes. Voilà, j'ai enregistré quelque chose chez moi et je l'ai sorti par mes propres moyens pour faire plaisir un petit peu aux gens qui me suivent.
Sur les plateformes,
je l'ai uploadé sur Spotify et compagnie, et puis il a fait sa petite vie c'est un EP album, enfin c'est un truc 8 titres en gros,
adolescent,
un peu entre les deux
ouais.
Et au départ j'avais pour ambition de sortir 3 mini albums comme ça, et en fait finalement j'ai juste changé d'avis, j'ai plus envie de faire comme ça, j'ai envie de faire un vrai gros album, tu vois, entier, et surtout j'ai envie d'être accompagnée, parce que l'autre production, c'est intéressant en termes de liberté artistique, mais pas du tout en termes de charge de travail si tu veux défendre le truc. Moi je l'ai vraiment juste uploadé parce que si tu veux donner de la visibilité à ton EP alors que tu es indépendant, bah c'est beaucoup de travail, mettre les moyens aussi pour éventuellement embaucher des gens, etc. C'est un investissement que j'avais pas vraiment envie de faire, et je me dis que c'est un peu dommage parce que cet album est pas forcément aussi visible qu'il pourrait l'être, et j'aimerais que ça soit le cas pour le prochain album. Donc je prends le temps de chercher un entourage qui me convienne, et puis même artistiquement j'ai plus envie de faire des choses toute seule dans ma chambre, j'ai envie
faut que ça bouge.
Faut que ça bouge. Donc
tu prends le temps de rechanger d'avis.
Ouais, carrément. C'est moi, j'annonce comme ça. Ouais, je sors un album. Oh, et puis non.
Mais du coup, si on peut faire un petit coup de pub pour ton premier album EP.
Ouais, mon petit EP Aquatisme. Voilà, enregistré à la maison. J'ai un peu tout fait sur cet album. Donc, j'étais assez fière de moi parce que réussir à aller au bout d'un projet, de voir l'album sortir, de le voir en physique, parce qu'on en a fait quand même quelques exemplaires en CD. On n'a pas fait de vinyle, mais on a fait des CD. Et c'est quand même très satisfaisant de se dire que voilà, on a fait ça dans sa chambre et voilà, j'ai vraiment quasiment tout fait toute seule. Après, il y a mon ami ingé son, Jérémy Hartmann, qui m'a aidé pour terminer le mixage, etc. Mais c'était vraiment voilà un travail en souterrain, en sous-marin même, pour cet aquatisme. Donc voilà, il est comme il est, et il est disponible sur toutes les plateformes.
Spotify,
vous pouvez voilà
YouTube aussi.
Non, je crois
YouTube, pas.
Non, il est plutôt sur Spotify, Deezer et compagnie. Et vous pouvez le commander si vous le voulez. Vous le voulez l'offrir à Noël à des gens que vous aimez pour leur faire du bien. C'est un petit EP, voilà, tout doux, tout bien, écouter dans son bain ou pour faire la sieste.
J'achète en sous-marin.
Et ben voilà, vous pouvez le commander sur mon site gustine-gustine.com.
C'est bien d'en parler. De savoir aussi on peut retrouver quoi justement sur ce site, à part l'album, enfin il
bah, je
annonce un peu tes projets des,
non des parce qu'il faudrait que je le mette à jour pour ça,
ouais, d'accord.
Et comme j'ai personne qui s'occupe du site pour moi, bah du coup il est pas à jour, voilà.
Qu'est-ce
qu'il y a juste une biographie et une page pour acheter l'album.
Maman pourrait s'en occuper.
Bah, maman gère déjà les commandes des CD. Donc, d'accord. Si tu veux, si tu commandes l'album Aquatisme, c'est ma petite maman qui va mettre le CD dans une enveloppe, qui va me demander de le dédicacer si elle me demande de dédicace, et qui va l'envoyer aux gens en l'emmenant à la poste, tout ça.
Non, sinon. On peut parler de tes différents. Enfin, d'autres projets. Je sais pas lequel t'auras envie de présenter en premier. Il y en a plein, donc.
Écoute, si tu veux, on peut parler de. Là, je viens de terminer une tournée avec Fakir, et je reprendrai une en 2024. Donc, on peut parler de ça, parce que ça m'a bien occupé cette année, ça va bien m'occuper l'année
et
prochaine.
Fakir, pour ceux qui ne connaisseraient pas. Pas encore, j'ai déjà fait ça.
Non, mais j'avais l'impression que c'était un petit foutage de gueule parce que, vu ce qu'on disait en off, ceux qui le connaîtraient pas, la petite anecdote.
Non, mais il peut y avoir des gens qui
connaissent
pas encore. Bref, on se comprend avec Gustin.
Ok.
Parce que moi, j'ai fait pour le sosie d'Orelsen une soirée de Gustin, justement.
Elle était là une soirée, elle l'a pris pour le sosie d'Orelsen.
Et sur une photo, après, je me suis rendu compte de ma connerie.
Bon, ouais, si on peut revenir justement avec ton projet avec Fakir.
Bah écoute, je travaille donc avec Fakir depuis 2015. Fakir, il fait de la musique électronique et un morceau que beaucoup de personnes connaissent s'appelle La Lune Rousse. Voilà, je sais pas si ça vous parle. Et en fait, au départ, je devais juste collaborer avec lui sur un concert. Je pense que ça devait être en 2013. J'avais envoyé un mail à ce gars-là. Je pense que c'était, je sais même pas si c'était pas sur MySpace à l'époque. Et parce que j'aimais bien sa musique. Lui, il était pas aussi connu qu'il l'est aujourd'hui. Et en fait, dans ce mail-là, voilà, je disais que j'aimais bien sa musique et que s'il voulait, je lui filais des pistes de harpe pour qu'il puisse redécouper dedans, les utiliser en sample, parce que souvent les producteurs, ils galèrent un peu à trouver des samples libres de droit, et moi j'aime toujours collaborer avec plein de gens, donc j'avais dit tiens, si tu veux de la harpe, tiens c'est cadeau, je te file des pistes de harpe, et puis voilà, bon c'est tout, 2 années se passent, moi j'ai oublié que j'ai envoyé ce mail, etc. Et puis le gars Fakir me renvoie un message, il me dit bah en fait tes samples trop cool, je les ai utilisés dans tout mon prochain album, et là je fais un concert à l'Olympia dans 2 mois, tu veux venir jouer en feat sur le concert? Donc je suis vas-y, grave, carrément.
Pour les droits d'auteur, je te dois. Ah, trop bien, t'es mon pote.
Et du coup, voilà, on fait le concert à l'Olympia. Et à l'époque, il avait déjà une formule avec des musiciens sur scène. Et il avait une violoncelliste. Cette violoncelliste faisant partie d'un trio qui s'appelle L.E.G., qui a cartonné sur Internet, qui faisait, des filles qui faisaient des reprises à 3 voix avec le violoncelle. Et elle, ce soir-là, a annoncé à Théo, donc Fakir, qu'elle pourrait pas faire la prochaine tournée parce que, elle était en tournée déjà avec L.E.G., qu'elle pouvait pas faire.
C'était au moment où ça commençait à marcher. marché vraiment fort.
C'est ça. Donc, et là, les têtes se sont tournées vers moi en mode, bon, bah, du coup, tu veux venir en tournée ou pas? Bah, oui. Et voilà, on a commencé à travailler.
Ça, c'est il y a 10 ans, donc en 2013. Donc,
c'était 2015 l'Olympia. 2013, c'est le mail.
Ouais, le mail, 2013, le mail. 2015, l'Olympia. Bah, bravo, déjà, chapeau.
Ouais, c'est clair.
Que je n'ai plus sur la tête. C'est bien. Bah, Claire arrive à coordonner ses mains. C'est pas tous les soirs que c'est le cas.
Non.
Et The Voice, pour resituer, c'était un petit peu après.
Ah, ben c'est bien après The Voice, c'est 2020. Ouais.
D'accord, oui.
En fait, on a terminé, bah, du coup, on a terminé une tournée avec Fakir, c'était fin 2018. Et bah, l'année
qui
suivait. Attends, tu veux.
Non, je suis impatient.
C'est un peu what the fuck cette histoire, mais. J'avais rien à faire l'année-là. Enfin, c'est-à-dire que j'avais plus la tournée avec Fakir, je savais pas trop ce que j'avais envie de faire de ma vie, mais je savais que j'adorais être sur scène avec des artistes, les accompagner. J'avais pas forcément, je me suis pas dit, oh, je vais me défoncer dans mes projets perso et tout. Non, j'avais vraiment envie de repartir en tournée avec des gens parce que je kiffais trop ça. Et donc, on m'a appelé. Ça faisait déjà plusieurs années qu'on m'a appelé pour me proposer de participer au casting de The Voice, parce qu'il y a des gens qui ils repèrent des gens sur internet,
parce que t'avais déjà fait énormément de
projets, c'est même pas toi qui a fait la démarche.
Non, ni un
proche, tu sais, le cadeau empoisonné. Tiens, au fait, demain.
Non,
on va peut-être se retrouver sur
Merci
The Voice
Mariette plus, ouais bah, Claire a plus de chance.
Oui. J'imagine.
Jeanne à la masse.
Désolée, du coup, on t'a coupé.
Voilà, j'avais reçu cet appel me proposant de participer au casting. Moi, j'avais absolument pas envie de participer à l'émission de The Voice parce que je voyais ça comme un concours et pour moi, la musique, c'est pas un concours. En plus, esthétiquement, moi, j'avais l'impression qu'en tant que chanteuse à la voix légère, j'avais aucune place là-dedans, hein, qu'il fallait bien plus envoyer du lourd avec sa voix pour. En tout cas, c'est l'image que j'avais de l'émission au départ. Mais je me suis dit, allez, je vais quand même au casting parce que les directeurs de casting qui sont là, clairement c'est des gens qui ont le bras très long, qui peuvent aussi te faire collaborer sur des comédies musicales, qui vont gérer des tournées de variété, etc. Donc je me suis dit, bah, je vais y aller, je vais filer mon CV, je leur dis, bah, voilà, est-ce que vous avez besoin d'une musicienne en tournée qui joue de la harpe, qui chante, qui joue du piano, parce que bah, moi, cette année, j'ai du temps. Donc j'y suis allée, j'ai donné mon CV. Et là, ben donc Bruno Berberès, qui est le directeur de casting, m'a demandé. Il me dit, bah, tu veux pas quand même nous chanter un petit morceau avec
ta
harpe? Enfin, c'est bien beau de nous donner le CV, mais on a envie d'entendre quand même ce que ça donne en vrai. Et bah, comme je sortais de soirée, même si c'était l'après-midi, je sortais de fête et du coup, je me suis dit, tiens, je vais leur chanter une chanson paillarde. Alors,
arrête.
C'est vrai.
J'aurais chanté la quéquette qui colle.
Ah putain.
Et que je vais entendre que je vais ça. Allez Gustine.
Alors sans la harpe, mais
ouais, vas-y.
Ah. J'ai la quéquette qui colle.
Moi aussi.
J'ai les bonbons qui font les bons. J'ai la quéquette qui colle.
Lop, lop.
Dansons sur le pont d'Avignon. Etc. Et voilà, et ils m'ont dit, bah, on te veut à The Voice. Et là,
j'ai réfléchi.
Mais ils m'ont pas autorisé à chanter cette chanson-là.
C'est dommage.
Ça aurait été drôle. Mais
et voilà, mais rien que pour la puissance de la voix. Allons-y.
Exactement.
On va chanter, je sais pas, l'habitat du Dul. Ça passera bien.
Non, mais du coup, j'ai opté pour une autre chanson, mais beaucoup plus belle et poétique, que je chante aussi en soirée au karaoké, au curtain.
C'est pas Marc Lavoine.
Voilà, allez,
j'ai bossé l'émission.
Voilà comment je me suis retrouvée à chanter ce morceau.
Ok, et c'est pour ça. Ouais, donc The Voice, ils t'ont demandé de chanter Marc Lavoine.
Non, c'est moi qui choisis.
Bah, toi, mais, oui, mais à la base.
Ils ont dit par pitié,
pas la quéquette qui colle.
Non, j'ai pas eu le droit à la paillarde.
T'aurais pu faire un mix, la quéquette révolver.
T'aurais pu les embourber, t'aurais pu leur dire ouais pour le Marc Lavoine et t'arrives, bam, chanson paillarde.
Alors, il faut savoir que les émissions à l'aveugle, donc les premières émissions sont préenregistrées, donc ça marche pas. Voilà. J'y ai pensé, t'imagines.
T'aurais été marrant. Mais du coup, pourquoi Marc Lavoine?
Parce qu'il a les yeux, elle a les
yeux
à
l'aveugle. En fait, je suis
fan de Marc Lavoine.
Hein?
T'es fan de Marc Lavoine?
J'ai beaucoup de...
On a le droit de parler, nous aussi.
Mais oui. J'ai beaucoup de respect et voilà, je trouve que c'est un super artiste. Dire que je suis fan, non. Mais voilà, je chantais cette petite chanson au karaoké que je trouve effectivement
Il joue de l'harpe aussi.
Assez jolie.
C'est un super harpiste.
à artiste. C'est vrai que c'est assez proche. Mais non, Marc Lavoine, voilà, c'était vraiment... En fait, je suis arrivée, il y avait une répétition en fait, où on était censé venir avec le morceau qu'on allait chanter à l'audition et le travailler avec les coachs vocaux. Donc bah, évidemment, tous les candidats sont arrivés en ayant bossé un morceau, en sachant exactement ce qu'ils allaient chanter. Moi, je suis arrivée, je n'avais aucune idée de ce que j'allais bien pouvoir faire. Et du coup, je leur ai dit, bah, c'est qui dans le jury? Vous pouvez me le dire maintenant. Donc, ils m'ont donné les noms des jurys.
C'était lui.
Et donc, il y avait Marc Lavoine dans le jury. Et là, je fais, Marc Lavoine, les yeux revolver. Mais oui, on va faire ça, ça va être drôle.
Attends, la question, est-ce qu'il s'est retourné?
Oui, il s'est retourné, il est venu chanter avec moi.
Ah ouais, ok, il faut que je regarde les vidéos. J'ai pas assez bien bossé, désolé.
Là, ouais. Mon chapeau.
Là, il y a du level hein, sur la bulle mécanique. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même.
Elle peut aller plus loin encore. Jusqu'au bout du monde.
Ouais. Non, mais du coup, en tout cas, bien stylé quoi. Enfin, belle
j'adore
anecdote.
Cette émission. Et si on est bien d'accord, tu ne. Le chant, c'est venu à peu près à cette période-là. C'était pas. C'était plus les instruments, pas...
Oui, non, c'était essentiellement les instruments. Après, si je chantais déjà
entre
dans...
Fakir et The Voice.
Je chantais déjà dans certains projets. J'avais déjà un projet dans lequel je composais, dans lequel je chantais des chansons et tout. Mais j'avais mis ça de côté, justement, parce que j'étais partie en tournée avec Fakir et que je me suis dit, la vie de musicienne, c'est vraiment trop cool.
Oui, c'est parce qu'il te plaisait plus dans la carrière qui t'était prédisposée.
Non. Au final, bosser pour d'autres, c'est vraiment ce que je me suis... Mais même encore aujourd'hui, hein, même si j'adore m'exprimer via ma propre musique... Franchement, franchement collaborer avec des gens.
Ou prêter des.
Ouais, j'adore.
Des compos.
Bah après, j'ai la chance d'être tombée sur des super personnes aussi. Hein. Je pense que quand tu bosses pour des équipes avec... où ça se passe pas très bien humainement, c'est peut-être différent. Mais voilà, là.
Qui le dis-tu?
Bah oui.
Moi, j'aimerais bien raconter une anecdote que j'ai avec toi.
On n'est pas aux grosses têtes, là, pardon.
Je sais pas si tu t'en souviens.
C'était il y a 5 minutes.
C'était il y a quelques années. C'était il y a un temps incertain. Je te connaissais par les maracaspis en fait.
Ouais.
Ah, je cherchais ce nom.
Et j'aimais beaucoup ce que tu faisais, ton univers, tout ça. Et en fait, mon copain de l'époque m'avait acheté un CD de toi. Ouais. Et super et tout. Et en fait, j'ai une amie qui m'a demandé si je pouvais lui prêter. Et je lui ai prêté. Et en fait, quand j'ai voulu le récupérer, elle m'a dit, bah, écoute, j'ai eu un problème avec le CD, mon chien l'a mangé. L'excuse du chien, quoi. L'excuse du chien.
Non, mais là, je veux dire, il a mangé un scud.
Non, mais le truc improbable.
Ça me rappelle mes devoirs maison.
Le truc improbable. Et quand je t'ai vu, je t'ai raconté l'histoire et ça t'a touché. Et tu m'as dit, demain, viens chez moi, je te donne un CD.
Et le chien, c'était pas un problème.
Tu m'as donné deux CD. J'ai passé un moment super avec toi. Et je n'oublierai jamais. Et je te remercie pour ce moment-là.
Bah, je t'en prie.
Et pour Versailles.
Okay. Voilà, c'était une autre rigolote.
Tu ne dis rien, toi, en fait.
Bah, je dis pas tout.
Elle est secrète.
Je dis pas tout. On peut pas tout dire d'un coup. Il faut laisser le temps.
Mais tu peux. Oui.
Et du coup, j'ai vu.
Oui.
Ça m'a étonné. Dernier album de Carla Bruni, t'as fait quoi là-dessus?
Moi, j'ai fait de la harpe.
T'as fait de la harpe avec Carla Bruni?
Bah ouais.
Et pourquoi Carla?
Et avec d'autres, je la cite elle, mais il y avait aussi Albin de la Simone. Je ne connais pas.
Ça, c'est des, c'est des collabs en studio, voilà, que j'ai fait son dernier album. Albin, bah, d'ailleurs, qui vient en concert, ça sera passé quand l'émission sera diffusée. Donc, non, ça va pas.
Bah,
et il vient le 25 là, au manège dans le cadre du
le
festival Charabia.
Le 25 novembre, donc écoutez. Ça.
Albin.
Ok.
Albin, que certains d'entre vous auront peut-être vu au festival Charabia le 25 novembre dernier.
Bien joué. J'ai vu que tu avais fait un truc aussi avec Joseph Chédid.
Oui.
Donc moi dans les Chélides je connais Mathieu,
oui.
Louis,
oui.
Et Joseph.
C'est Joseph, c'est le petit frère
de Mathieu.
Oui, c'est le petit dernier de la fratrie.
Je le connais. Pas,
il faut absolument que tu écoutes parce que ce qu'il fait c'est magnifique.
Ok, mais je vais
écouter. J'ai eu un gros coup de cœur pour sa musique et comme il est, on a la même tourneuse. Tu sais, les gens qui organisent les concerts, enfin qui bookent les concerts pour nous, les artistes, on a la même tourneuse qui s'appelle Farprod, une des super personnes d'ailleurs. Et bref, Farprod, une des personnes de cette boîte, me dit que Joseph fait un concert bientôt. Je fais mais je suis trop fan, j'adore. Bah viens, c'est tel jour, telle heure, machin, au théâtre, tel théâtre à Paris. Et du coup, bah en fait, suite à ça, Joseph me contacte et me dit mais j'ai vu que, enfin, on m'a prévenu que tu venais à mon concert. Est-ce que ça te dirait de venir jouer de la harpe sur un morceau? Et moi, évidemment, comme j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait, voilà, j'ai fait ce petit bout de concert avec lui. Et puis après, il m'a proposé de passer chez lui parce qu'il a un studio d'enregistrement chez lui pour enregistrer un morceau pour son futur album. Voilà, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur musical pour cette personne et humain aussi, parce qu'il est vraiment d'une grande gentillesse et d'une grande sensibilité.
Il fait quoi exactement?
Et j'adorerais qu'on retravaille ensemble sur des morceaux.
Il fait quoi exactement?
Chanteur.
Alors il chante, il fait de la guitare, il fait de la batterie.
De toute façon, c'est une famille de.
Oui, il a tourné aussi un petit peu avec. Il a tourné avec son frère, avec son père.
On pourrait mettre.
Bah écoute, si tu ne connais pas Joseph Jedid, je te propose d'écouter un morceau que j'adore de lui, un des premiers que j'ai découvert, qui s'appelle Bande originale.
Et bon, on s'écoute ça tout de suite alors.
Vous êtes toujours sur Bulle Mécanique, Radio Primitive.
Bloup, 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 bloup.
Bah, là, c'est la meilleure reprise de chanson qu'on ait eue. Quoi. Et du coup, on vient de s'écouter Joseph Chédid. Oui. Et le titre, c'était...
Bande originale.
Et franchement, c'était bien cool.
C'était quoi le film?
C'est beau. Hein, voilà.
On a découvert un nouveau Chédid. Mm.
En tout cas, voilà, une belle... Une belle collaboration et voilà, c'est vraiment ce pourquoi j'ai voulu faire ce métier, c'est pour collaborer avec des artistes que j'admire, dont j'aime la musique, et de pouvoir partager un bout de scène ou un petit bout de morceau d'enregistrement avec eux, c'est toujours
un bout de soirée,
c'est toujours génial.
Non, en plus dans les collaborations, t'as pas fait seulement avec des artistes, j'ai vu que t'avais fait aussi avec des grandes enseignes. Style Champagne Veuve Clicquot, Champagne Laurent Perrier, du champagne quoi.
Ouais, bah, le champagne évidemment dans la région. Non, j'ai participé à un très très chouette projet l'année dernière pour Veuve Clicquot. Ils fêtaient les 250 ans de Veuve Clicquot quand même, c'est pas tout jeune. Et ils m'ont donné une espèce de carte blanche créative. J'ai créé une pièce musicale électro-acoustique avec de la harpe et de la musique électronique à base de... J'ai fait du sound design à partir de sons de bouteilles de champagne, etc. Et donc ce spectacle était aussi lié à un spectacle de lumière dans une des carrières des caves de chez Clicquot. Et ce spectacle a été joué pendant 30 jours consécutifs pour les 250 ans.
Ah ouais.
Donc c'était très intéressant comme projet.
Bah ouais, c'est stylé. Mmh.
Moi j'ai une question.
Allez, Claire.
Ouais. Ah merde, je l'ai perdue.
Non, elle n'est pas claire. Elle n'est pas claire la question.
Ah ouais. Oui, si. Mis à part tes projets musicaux, je crois savoir que tu as d'autres projets. Dans l'associatif et tout ça. Est-ce que tu veux en parler ?
Ouais, bien sûr. Notamment, je suis depuis un an marraine d'une association qui s'appelle Margot pour la vie. Donc en fait, j'ai rencontré les parents d'une petite fille donc, qui s'appelle Margot et qui ont au départ monté cette association-là pour leur fille qui en fait est tombée malade et d'une maladie toujours non diagnostiquée.
Orpheline,
donc
voilà,
encore voilà. Inconnue.
Et donc cette petite fille aujourd'hui est hospitalisée en IME à Chalon. Et voilà, au départ, les parents ont créé cette association là pour permettre à Margot d'aller essayer des traitements en Allemagne. Et finalement, de fil en aiguille, ils se sont rendus compte que Margot n'était pas la seule petite fille dans ce cas-là. Et tout leur parcours aussi leur montrait que voilà, être hospitalisé en IME, il y a des choses qui vont bien, des choses qui vont moins bien.
Bah, elle n'est pas forcément à sa place, vu que c'est une inconnue comme maladie.
Non, mais c'est surtout qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas tout seuls, je pense.
Voilà, déjà qu'il y avait beaucoup d'autres parents qui pouvaient aider. Donc voilà, ils ont cette volonté de pouvoir aider d'autres enfants qui sont dans la même situation que Margot, et aussi d'autres parents qui se retrouvent face à ce parcours du combattant qui est d'essayer de trouver un diagnostic pour son enfant quand il n'y en a pas.
Comment ça se manifeste ? Qu'est-ce qu'elle a, en fait ?
Alors ça, je vous invite, pour avoir l'histoire un petit peu détaillée, à aller, il y a un site internet qui est très très bien fait, où toutes les l'histoire de Margot est expliquée, voilà. D'accord. Margot pour la vie. Ce qui est important, c'est surtout ce que souhaite faire cette association maintenant. Ils ont des petits projets, comme par exemple l'été dernier, ils ont installé des clims dans les chambres des enfants en IME parce que il faisait une chaleur épouvantable et dans un service public c'est toujours très compliqué de mettre en place des dépenses comme ça du jour au lendemain c'était urgent, il fallait des clims pour les enfants donc l'association a mené même cette petite action même en France il y a beaucoup de choses qui sont et donc justement le projet, le très très gros projet qu'a cette association, c'est de pouvoir monter un centre adapté vraiment à ces enfants-là.
Oui, c'est ça, ouais.
Un centre un petit peu témoin.
Novateur.
Un centre tout à fait novateur qui serait vraiment sur mesure pour ces enfants-là. Et le projet est chouette. Et je vous invite vraiment à vous renseigner sur cette association et à y adhérer. Mmh. Parce que là, pour que l'association avance, il faut vraiment qu'il gagne des adhésions.
Donc, il y a quoi ? Il y a un Tipeee, un truc comme ça, non ? Enfin, est-ce qu'on peut faire un don ?
Alors, déjà simplement adhérer à l'association donc c'est possible faut aller checker sur le site internet ou alors se rendre les parents de Margot ont une grande appétence pour le monde culturel donc ils organisent aussi des événements culturels pour donner de la visibilité à l'association, récolter des fonds et aussi
aussi, bah voilà, allier l'utile et à l'agréable. Et notamment, bah là, il y a eu le 1er décembre une vente aux enchères au manège de Reims. Voilà, avec plein d'artistes qui ont participé. Moi aussi, j'ai participé. Mmh. Et voilà, le but, c'est de pouvoir lever des fonds pour ce gros et formidable projet de QG pour voilà accueillir. Accueillir ces enfants. Bah, par exemple, tu vois, ces enfants, le Téléthon va s'occuper de la recherche sur ces maladies. Mmh. Et voilà, ce que souhaite faire l'association Margot pour la vie, c'est pas forcément s'occuper de la recherche, mais de l'accueil de ces enfants, parce que tant qu'on sait pas ce qu'ils ont, il faut s'en occuper. Ouais. Et les conditions d'accueil sont pas toujours évidentes. Par exemple, ses parents m'ont raconté que il n'y a pas d'IME dans les dom-toms. Et que bah un enfant qui a ces problèmes là voilà à La Réunion va devoir venir être hospitalisé dans une IME en France, et que bah si ses parents restent là-bas, bah les parents sont coupés du contact avec leur enfant, parce que faire des allers-retours, ça a un certain prix, c'est compliqué, et que bah il y a même pas de système de visioconférence pour que voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont manquantes ou qui sont voilà en retard par manque de moyens dans
et puis ces pathologies là en plus ne cochent aucune case, donc tu peux pas Oui, ils sont démunis. S'ils laissent leur enfant, il n'y a pas de financement pour pouvoir accompagner l'enfant.
Exactement. En tout cas, il y a des choses qui prennent beaucoup, beaucoup de temps et qui, en France, et qui, voilà, qu'il n'y a pas forcément les moyens non plus financiers qui sont là. Donc voilà, cette association vraiment se démène pour essayer de faire bouger les choses dans ce sens-là. Et en plus, eh ben, ils le font de manière super sympa, parce que c'est en organisant des concerts, des événements, des expos, des choses comme ça. Exactement. Il y a là ça va être bientôt, je sais plus le jour exactement, mais la soupe du chef. Donc en fait, ils seront présents au marché Boulingrin, et le chef Philippe Mille a fait une recette de soupe, et la soupe sera vendue au profit de l'association sur le marché du Boulingrin.
C'est une soupe à quoi?
Alors je sais pas cette année, mais l'année dernière elle était excellente, j'en ai acheté plusieurs bouteilles. Non, franchement, ça vaut le coup. Bah voilà, ça permet de faire un don à l'association et de se régaler à la maison. Donc
franchement, en tout cas, merci.
Un chef renommé.
Ouais, en plus, ouais. Mmh. Mais merci à toi d'avoir fait la lumière là-dessus, Gustine. Mmh. C'est cool d'avoir pris le temps de parler de ça. Puis on souhaite que du bien la petite Margot.
Parce que rien d'en parler,
ça famille,
doit déjà faire du bien aux familles.
Ouais. Mmh. Ouais aussi, bah, c'est en fait, alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais les familles concernées qui pourraient avoir besoin de ce centre d'accueil dont l'association souhaite monter le projet. Il y a énormément, je ne sais plus le chiffre, mais il y a un public énorme en fait en demande. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens dans la situation de Margot, et c'est très, très pertinent de
d'en parler déjà. Ouais,
même si on ne sait pas à quoi ça sera, ne crachez pas dans la soupe.
Oui, exactement.
Non, franchement, beau message. Et puis,
beau projet. Ouais. Et on embrasse Margot.
Oui.
Ouais.
Sa famille, et puis tous les gens dans la même situation qui auraient besoin
de clarté.
Oui, et l'association est aussi là pour comment dire, informer aussi, orienter. Donc, si voilà, il y a des familles qui sont dans cette situation et qui se sentent un petit peu seules, et ben, ils peuvent contacter l'association Margot pour la vie pour essayer de peut-être avoir des informations ou des témoignages.
Dans le flou, il y a des familles qui
sont complètement isolées, qui ne savent pas qu'il y a plein d'autres familles qui ont vécu les mêmes choses.
Qu'est-ce qui se passe?
Tout à fait.
La communication.
Non. On va repasser sur toi.
T'as envie de parler de quoi? T'as envie de parler de quelque chose en particulier là?
Je sais pas, moi.
Plus belle la vie,
qu'est-ce que je peux annoncer?
J'ai vu que t'avais adopté des chiens, Yoda et Suki.
Ouais, j'ai adopté.
Ah, moi je sais tout, les gars.
J'ai adopté Yoda en tout début 2021. Et Suki en 2022. Voilà, ce sont deux petits chiens. Un petit chien et une petite chienne. Ouais, ils vont bien.
On leur fait des bisous aussi.
Ouais. Ouais. Non, ils sont adorables. Oui, bah voilà. C'est la vie après le boulot.
Là, du coup, sinon, je te propose de remettre le deuxième son que tu nous as envoyé.
Ouais.
Si ça te dit.
Eh ben, écoute, ouais, ce morceau, donc, ben, pareil, c'est une exclue. Hein, il n'est pas encore sorti. Je le chante lors de mes concerts, mais l'enregistrement qu'on a fait, au studio Le Chalet.
C'est une deuxième exclue, quoi.
C'est une deuxième exclue.
Ah, merci.
Et toujours, vous pourrez entendre Nicolas Masson à la guitare, vous pourrez entendre mon ami Romain Darbon à la batterie, et Kevin Espich aussi qui rajoute une touche de clavier, et donc enregistré au studio Le Chalet avec mon ami, que des amis, Jérémy Hartmann. Voilà, c'est la morceau s'appelle Happiness.
Happiness. Et ça parle de quoi ? Je peux nous le présenter.
Alors, je sais pas, mais à mon avis, c'est joyeux.
Ça parle de joyeux,
c'est pas sûr, je suis pas sûr, je suis pas sûr.
Mais je sais pas si ça t'est déjà arrivé à ce moment dans ta vie où tu ressens de la joie, mais où c'est presque douloureux. Parce qu'il y a peut-être des gens qui sont plus là et que...
Alors l'inverse, ça m'est déjà arrivé.
Un peu nostalgique.
En fait, ça parle de retrouver la joie lorsqu'on l'a perdue, mais est-ce qu'on s'y autorise? Et ça, je pense qu'on a tous traversé des moments comme ça où ressentir la joie, c'est quelque chose. Mais parfois, dans certaines situations, ça peut être un peu douloureux. Et en même temps, c'est beau et on est perdu. Et est-ce que j'ai le droit d'être heureux? Bordel! Voilà.
La solution est dans cette chanson.
En tout cas,
je vais l'écouter au moins 15
cette chanson
fois.
Juste fait le constat. Voilà, fait le constat de cette situation et pose la question de s'autoriser ou pas à être heureux et d'être surpris par ce bonheur qui fait tout bizarre et qui fait du bien mais en même temps qui fait un peu mal. Voilà, c'est un sentiment un petit peu ambigu. J'ai eu envie d'écrire là-dessus. Voilà.
Merci pour les explications parce qu'on n'est pas tous bilingues et du coup je propose qu'on s'écoute ça tout de suite si ça vous dit. C'est Happiness d'Augustine.
Happiness is hurting me like a winter sun, it's blinding me now. Happiness is hitting me like a thunderstorm, it cracks suddenly. Do I want?
Bon, du coup, on vient de s'écouter.
On vient de s'écouter Happiness, un morceau qui n'est pas encore sorti et que j'ai enregistré, je sais pas, il n'y a pas très,
nous,
très longtemps. Hein, ouais, voilà, juste pour vous, c'est cadeau. Je sais pas quand ça Menteuse. Sortira, si c'est cette version-là qui sortira, je sais pas trop de quoi demain est fait.
Ça, oui.
Et pendant tout le temps de cette chanson, Couscous t'a demandé de fermer les yeux parce qu'il t'a préparé une surprise.
C'est ça, je suis très curieuse. Je peux les ouvrir, ça y est, mes yeux.
Oui, si tu peux.
Tu regarderas à droite, à gauche, mais surtout à droite.
Ok, alors je vais vous décrire parce qu'on est à la radio. Donc sur ma droite, d'un seul coup, on a une tête de lapin en plastique et sur ma gauche, une petite tête de chat. Je pense savoir d'où ça vient. Ça vient de la Gugu Beach Party, soirée électro que j'ai organisée au manège le 5 octobre dernier. Et vous êtes venus faire la fête là-bas. Et bien tant mieux.
Ouais, et donc voilà, c'est un cadeau que je reprends parce que je veux quand même le garder en souvenir, ce masque.
Yes. Bah oui, garde-le en souvenir, c'est le but. Hein. C'est le but.
Le petit clin d'œil pouvait être sympa.
Ouais. Moi, ça me fait peur un peu.
Ah ouais, ça pouvait faire peur.
Ça pouvait peur.
C'est juste des petits animaux.
Bah, s'ils avaient été tout nus à 2h du matin, oui, ouais. J'avoue que ça aurait
non,
été.
Là, ça va.
Là, ça va.
Ouais.
Et du coup, c'était quoi cette soirée?
Cette soirée, je n'y étais pas. Moi, j'adore la musique électronique. J'en ai toujours. Ouais. Produit, même si pour les personnes qui me connaissent pas, ça peut paraître très différent de ce que je fais avec la harpe, mais voilà, ça fait partie des choses que j'aime et que je fais. Et voilà, le manège m'a laissé carte blanche sur une soirée pour organiser des DJ sets live, voilà, une espèce de grosse boom électronique et voilà, et je me suis régalée.
Alors, moi qui ai la phobie des ballons, il y avait un peu trop de ballons à cette soirée.
Ah ouais, faut pas venir si t'as la phobie des ballons.
Moi, j'ai la phobie des ballons, les gens me regardent bizarre. J'en sais rien du tout.
Oh, ça doit exister forcément.
Mais je pense qu'il y en a une paire qui m'ont cru.
Bah écoutez, s'il y a des gens qui ont la phobie des ballons, ne venez pas au Gugu Beach Party.
Les ballonophobes, venez pas.
Ne venez pas.
Et du coup, on va arriver sur une fin d'émission, donc je sais pas si Gustine, t'avais envie de.
Et Claire qui est en tête.
Un projet en particulier, si t'avais autre chose.
Non, bah écoute, je crois qu'on a fait pas mal le tour de pas mal de choses que je fais en ce moment.
Ouais.
C'est trop bien. Merci de m'avoir invité d'ailleurs.
Merci.
Avec plaisir. On peut juste pour rappeler.
Me présenter au public de la prime.
Ouais, où on peut te retrouver. On peut
sur les réseaux sociaux
Margot aussi.
Ouais, aussi.
Effectivement, vous pouvez me retrouver. Alors, j'ai une page Facebook, mais j'ai vu pas trop, honnêtement. Vous retrouvez-moi surtout sur Instagram. Voilà, c'est là en général, encore que je poste pas tant que ça, mais bon, vous aurez les infos essentielles sur Instagram. J'ai aussi, si vous voulez acheter l'EP Aquatisme et le recevoir dans votre boîte aux lettres, c'est sur mon site gustine-gustine.com. Sinon, je suis sur Spotify. Vous pouvez m'écouter sur Spotify. J'ai quelques vidéos sur YouTube. Que vous dire d'autre?
C'est déjà pas mal.
Bah ouais. Ouais. Moi j'ai trouvé cette émission super agréable.
Merci Pierre, merci Couscous.
Merci.